Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
Bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt-thérapeute et formateur en relations humaines. Il nous propose, avec Marie-Laurence, son épouse, à travers des parcours qui sont adaptés aux situations très diverses de chacun, et ce, au sein de l'Institut de formation psychrétien, une aide thérapeutique qui permet de se réconcilier avec soi-même, dans toutes les dimensions de son humanité, avec les autres aussi, et cela dans la perspective d'être plus disponible à l'accueil de l'action de Dieu dans nos vies. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, notre sujet de réflexion et de partage ce soir, c'est un sujet important et qui nous concerne tous. Comment gérer son histoire, notamment son histoire familiale?
Oui, voilà, on va surtout parler de l'histoire familiale, même si l'histoire d'une personne ne se résume pas à l'histoire familiale.
Bien sûr, elle s'inscrit dedans.
Et en même temps, plus on vieillit, plus on se rend compte de combien on est lié à cette histoire familiale.
Plus qu'on pensait, qu'on pouvait penser.
Beaucoup plus qu'on pense. Quand on est jeune, voilà, on se libère de la famille. À 30 ans, mais plus on vieillit et plus on réalise combien c'est important dans le parcours de chaque être humain, de chaque personne, l'impact de cette histoire familiale et combien on reste lié à cette histoire.
C'est ça. On ne peut pas faire l'impasse sur son histoire familiale.
On ne peut pas faire l'impasse. C'est un peu comme si finalement on était dans un en psychologie on appelle ça dans un champ et on reste dans ce champ toute notre vie finalement et on peut le voir parfois on retourne sur les mêmes lieux, on peut déménager et puis et puis on revient mais quand on revient on retombe à peu près au même endroit. On retrouve des lieux, des personnes, des activités en lien avec son histoire familiale ou personnelle ou de son conjoint mais c'est toujours voilà. Et puis c'est l'approche des fêtes de Noël aussi. On commence à mettre les décorations dans les rues.
Oui, ça se met longtemps à l'avance.
Voilà. Mais en même temps, c'est un moment où l'histoire familiale ressort et même prend parfois une place importante. Alors, Noël, pour beaucoup de personnes, c'est une fête, mais pas pour tout le monde.
Ben oui.
Et justement,
quand on n'a pas de famille, ou là, on
alors,
le ressent peut-être.
Quand on n'a pas de famille, ou quand on a une famille où on ne s'entend pas, et même quand on s'entend d'ailleurs, on verra. Pour certains, les périodes de Noël, c'est plus une épreuve qu'une fête. Et on va retrouver comme ça tous les conflits, quand il y a des conflits entre les parents et les enfants, dans la fratrie aussi, quand les gens acceptent ou pas leur famille, ou que la famille les accepte ou pas, leur famille, leur belle famille aussi. On va retrouver aussi tous les problèmes du célibat qui ressurgissent au moment de Noël, parce que parfois les frères et sœurs sont mariés, et
il y en a un ou
et voilà, et il y a une personne célibataire qui va mal le vivre. On retrouve aussi tous ceux qui ont des difficultés à concevoir un enfant, qui vont vivre cette période de Noël d'une façon difficile. On pourrait continuer la liste ça.
Finalement, c'est tous les problèmes qui ressortent concernant la famille, ça refait surface, parce que le fait de rencontrer,
parce que la famille se réunit en général à Noël. Et que du coup, quand il y a des difficultés, quand soit personnelles, soit familiales, à ce moment-là, ça a tendance à remonter à la surface et à faire souffrir les personnes.
Oui. Alors, pourquoi on a choisi le terme de comment gérer donc son histoire ? Et pourquoi ce terme de gérer son histoire plutôt que de guérir ou de se libérer, je ne sais pas, un terme comme ça.
Oui, d'abord parce que on guérit d'une maladie, on guérit d'un symptôme ou d'une pathologie, mais la famille, c'est pas une maladie.
Non.
Donc, il ne s'agit pas de guérir de sa famille. Et on peut se libérer de préjugés, d'enfermement, d'emprisonnement. Alors même si parfois les préjugés peuvent être familiaux, mais voilà. Pour ce qui est de l'histoire familiale et personnelle après de l'adulte, finalement c'est quelque chose qu'on porte en soi toute sa vie. Donc, il ne s'agit pas d'en guérir, il ne s'agit pas de s'en libérer. Et on pourra dire, même les personnes, il y a des personnes qui oublient tout un pan de leur histoire, qui, par exemple, se rappellent rien de leur souvenir d'enfance avant 10 ans, ou se rappellent rien de leur adolescence. Et peut-être même encore plus spécialement cela, finalement, on peut pas faire fi de son histoire personnelle ou familiale, et on ne peut qu'apprendre à la gérer.
Mais quand on oublie une période, c'est qu'on l'a enfouie, c'est qu'on ne veut pas, c'est pas bon effectivement, mais
c'est qu'on a refoulé toute une période de sa vie. Alors peut-être parce qu'elle a été difficile, peut-être parce que l'enfant est parti dans la rêverie et n'était pas très présent, et du coup il a pas trop les souvenirs, en tout cas parce que c'est soit parce qu'à un moment il y a eu une perte de contact, donc par la rêverie ou par autre chose, soit parce que il y a eu un oubli mais lié à un refoulement de cette période, pour éviter de souffrir et pour éviter de se remémorer ce qui s'est passé.
Mais ça travaille encore dans l'inconscient, dans les couches.
Alors, ça travaille dans l'inconscient, ça se manifeste dans le présent d'une façon détournée, c'est-à-dire que ce qu'on a oublié ou ce qu'on a refoulé, ça continue d'exister.
Oui, c'est pas parce qu'on ne peut pas le voir que ça n'est pas.
Voilà. Et du coup, l'impact, même si on ne s'en souvient pas, l'impact est toujours présent et continue d'agir, en quelque sorte, à l'insu de la personne.
Donc, voilà, c'est important de voir, de savoir tout ça. Hein.
Voilà, mais en même temps, il ne s'agit pas de guérir. On peut guérir des symptômes liés à son histoire. Mmh. On peut se libérer des préjugés qu'on a eus, par exemple, dans son éducation, ou des enfermements, éventuellement. Mais pour ce qui est de l'histoire...
Oui, l'histoire même.
L'histoire en elle-même, il s'agit de la gérer. Et c'est quelque chose qui va accompagner chacun toute sa vie, et même qu'on pourrait dire qu'est constitutive de l'individu. La personne se construit avec cette histoire. Et si elle n'avait pas eu cette histoire, elle serait une autre personne.
Oui, elle ne serait pas elle-même.
Elle ne serait pas elle-même. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est intimement constitutif de la personnalité. Et en même temps, quelle qu'elle soit, cette histoire, elle peut être joyeuse, elle peut être pleine de bonheur, elle peut être douloureuse. En tout cas, il y a la possibilité d'en faire quelque chose. Et donc, l'enjeu, c'est plutôt de l'accueillir pour en faire quelque chose et, en faisant quelque chose, trouver sa place dans la vie.
Voilà, c'est ça. Donc, au lieu qu'elle soit gênante, il faut pouvoir la transformer
de
sorte qu'elle devienne au contraire...
en trouver le sens. Alors, parfois, il y a des blessures à guérir ou des mal-êtres à guérir. Mais au-delà de ça, il y a un sens à trouver à son histoire, une compréhension d'adulte, un regard adulte avec, qui permettra de trouver du sens pour en faire quelque chose. C'est Sartre qui disait « L'important n'est pas ce qu'on a fait de moi, mais ce que je fais avec ce que l'on a fait de moi. » Et je crois que c'est vraiment ça qu'on a, c'est avec cet œil-là qu'on a regardé notre histoire. C'est vrai qu'on a pu souffrir et tout le monde a eu des moments douloureux dans son histoire, plus ou moins forts. Hein. Il ne s'agit pas de nier les traumatismes ou les choses graves. Mais tout le monde peut avoir des moments douloureux, des moments heureux dans son histoire. Alors, ça a un impact sur la vie, mais la vraie question, c'est quand on est devenu adulte,
qu'est-ce qu'on en fait ?
Parce qu'on voit des adultes, parfois, de 50 ans et même plus, qui sont encore enfermés dans leurs problèmes d'enfant, il s'est passé ça.
Les états fusionnels aussi, qui ne sont pas résolus.
Et alors, tous les états fusionnels, toutes les blessures, tous les reproches ou les rancœurs avec les parents. Et finalement, ils gâchent leur vie avec ça. Et ils restent enfermés dans ce ressentiment et ils ne s'occupent que de ça au lieu de vivre pleinement leur vie.
Donc l'important de voir qu'est-ce que je fais de ce qu'on a fait
de mon histoire.
Alors justement, en ce qui concerne l'histoire familiale, tout le monde a une histoire familiale, ça...
Oui, bah ça.
On est tous inscrits dans une histoire familiale.
On est tous inscrits dans une histoire familiale. Alors d'abord, celle de notre conception, même avant, du désir de nos parents ou pas d'avoir un enfant. Et donc tout ce vécu qui remonte au désir de nos parents, à notre conception, notre naissance, puis là où on a grandi. Mais aussi celle de nos aïeux, alors de nos parents, de nos grands-parents, de la famille où a vécu nos parents, nos grands-parents.
Il y a le livre « Aïe, les aïeux ».
Voilà, il y a un ancien Schützer-Berger qui a écrit un livre qui est nombreuses fois réédité sur la psychogénéalogie qui s'appelle « Aïe, mes aïeux ».
Oui, c'est ça.
Aïe, dans le sens que ça
fait mal. Le titre est parlant, donc on s'en souvient. Hein.
Voilà. Et puis, finalement, tous ces membres de notre famille, tant qu'on en garde la mémoire...
Oui.
Enfin, tant que la famille en garde la mémoire. Parfois, il n'y a qu'une personne dans la famille qui en a la mémoire.
Mais même une personne qui garde la mémoire...
Voilà. Bah, tous ces membres-là, ils continuent à faire partie de notre famille tant qu'il y a une mémoire.
Ah oui.
Il suffit qu'il y ait un vivant qui se souvienne et voilà.
Donc l'histoire, oui.
Et la personne continue à faire partie de la famille. Le jour où plus personne n'y pense, fait toujours partie de la famille au plan généalogique.
Oui.
Mais pas au niveau psychique.
Ah oui, c'est le fait de penser, d'être présent dans la mémoire qui...
Voilà,
oui.
qui fait que la personne continue à avoir une existence psychologique, on pourrait dire, au sein de la famille.
D'accord. C'est le fait, oui, c'est ça, parce que y a un lien qui perdure.
Il y a un lien qui perdure dans la mémoire.
Mm-hmm.
Alors... Au-delà des liens spirituels qu'il peut y avoir dans la communion des saints,
oui,
on
oui.
est vraiment au niveau psychologique.
Oui.
Une personne, tant qu'elle est dans le souvenir de la famille, continue à exister psychologiquement pour les membres de la famille. Mais c'est vrai aussi pour nos amis d'enfance, par exemple.
Oui, bien sûr.
Nos amis d'enfance, quand on s'en souvient, ils continuent à exister pour nous.
Mais oui.
Ceux qu'on a complètement oubliés, finalement,
mais
ils
n'existent
plus pour nous.
Oui, bien sûr. Ouais. On va y revenir dans quelques instants, Pascal Parinet. Donc ce soir, nous parlons de l'histoire familiale et comment gérer son histoire familiale. Et nos auditeurs, bien sûr, sont invités à nous rejoindre au 01 56 56 44 00, donc avec ce qui fait votre histoire familiale heureuse ou moins heureuse, difficultés. On va surtout voir les difficultés, là.
Oui, un peu les deux. On va balayer un peu d'une façon générale ce qui existe, mais ça peut être à la fois positif et à la fois générer des difficultés.
Quand c'est positif, ça rend heureux, on peut rendre grâce, mais
oui.
Quand c'est négatif, ça, c'est douloureux. Donc là,
on peut faire quelque chose.
On va écouter tout de suite, alors je rappelle le téléphone 01 56 56 44 00, comment gérer son histoire, notamment son histoire familiale. On écoute Michel Thor qui rend hommage à son père, à mon père.
Radio Notre-Dame.
Cet homme du midi de la France, ce baladin de la Provence, ce facteur du courrier du cœur qui a toujours fait mon bonheur. Il chante avec la même voix des souvenirs qui sont en moi. Papa, je t'appelle papa, mon père, quand je pense à toi. Il m'a récité les paroles de tous les héros de Pagnol. Il se lève avant le soleil, il croit en Dieu, il croit au ciel. Il est toujours auprès de moi, des gens qui au dernier lilas. Bye. je pense à toi. Tu m'avais dit ne t'en va pas, que je suis partie loin de toi. Et de musique en musicale, je t'ai gardé. La mère de ses petits-enfants. Il m'appelle Méditerranée depuis le jour où je suis née. Il a toujours été le même. C'est si peu dire combien je l'aime. Papa, je t'appelle papa. Mon père, quand je pense à toi.
Voilà, c'était bien, voilà, à mon père, Michel Thor. Oui, puisqu'on parle de la famille, voilà, c'est tout indiqué. Et voilà, justement, comment gérer son histoire familiale, parce que c'est pas toujours évident, hein, et notamment au moment des fêtes, il y a des problèmes voilà. qui ressurgissent pendant les rencontres oui. familiales, des réunions.
Oui, même s'ils sont souvent
heureux, même si c'est
pas exprimé.
Ah oui, oui. Hein, oui.
C'est-à-dire que oui. les personnes, ben, comme c'est une fête, Noël. Et,
oui. On essaie de...
Chacun essaye de gérer sa douleur comme il peut.
En silence.
En silence et de souffrir en silence.
Voilà. Guillaume qui partit dit faire bonne figure. Hein, c'est ça, bonne figure. Ouais.
Voilà. Mais il y a quand même beaucoup de souffrance
oui.
autour de Noël dans les familles.
Oui.
Enfin, du moins, dans mon métier, c'est ce qu'on voit.
Ben oui, ben vous êtes bien placé. Hein,
ça ne veut pas oui. dire qu'il n'y a pas de famille heureuse. Au
non, ben oui, bien sûr. Mais vous, vous voyez là où, où ça oui. fait mal, souvent, hein, pour aider. Donc, voilà. Donc,
voilà. Tout... Oui. On disait que ben, tout le monde a une famille et une histoire familiale, du coup.
Même les enfants abandonnés, on est parents oui. biologiques.
Alors, ils ont des parents biologiques, ils peuvent avoir des parents adoptifs.
Aussi, oui.
Ce qui fait qu'ils ont oui. une double histoire.
Une double oui. histoire, oui, oui, oui.
Une double histoire, en tout cas, ben, leur famille d'origine biologique et oui. leur famille adoptive. Et souvent, ça rentre en conflit à l'adolescence, d'ailleurs.
Oui.
Ben,
c'est une période difficile,
voilà,
l'adolescence.
La crise d'adolescence des enfants adoptés, c'est souvent une recherche de leur origine et mmh. une façon de dire aux parents adoptifs qu'ils ne sont pas les seuls et qu'il y a aussi les parents biologiques.
Mmh.
Voilà, et là, c'est un peu plus compliqué, justement,
ben,
à,
oui.
cause, ben, à cause de l'abandon. Et...
Oui, oui, c'est sûr, hein, y a des souffrances. Ça multiplie aussi les difficultés et les souffrances. Alors, donc oui, c'est ça. Nos familles, nos aïeux sont les racines de nos racines.
On peut comparer, d'ailleurs, on parle d'arbre généalogique,
oui.
mais l'image, c'est vraiment l'image de l'arbre où on puise... dans notre famille, nos racines, ce qui permet aussi de donner ben, des feuilles, de donner des fruits, et que un arbre sans racines, il meurt.
Bien sûr.
Et on a besoin de ses racines.
Mmh.
Et puis, on pourrait dire qu'on sait, par exemple, aujourd'hui, qu'il y a une hérédité au plan biologique.
Oui.
Voilà, il y a des maladies qui se transmettent. Il y a des caractéristiques physiques aussi qui se transmettent, comme les yeux bleus.
Oui.
Mais il y a bien d'autres formes de transmission. D'abord, dans l'éducation. L'éducation est une forme de transmission. On transmet des valeurs à ses enfants. On a reçu les valeurs de nos parents.
Oui.
On transmet des façons de faire, des façons d'être. On transmet la foi. Je lisais un article il n'y a pas longtemps qui parlait que finalement la période la plus importante pour la transmission de la foi, c'est la petite enfance et l'enfance. Et que si ça ne se fait pas dans cette période-là, c'est beaucoup plus dur après.
Et que
quelqu'un à qui on a transmis la foi dans la toute petite enfance, par exemple, même si à l'adolescence, il peut quitter, il peut aller.
Mais il y a les racines peut-être.
Mais la racine est toujours là et ça revient plus tard.
Ah oui.
Et ça, ce sont des études statistiques sur la transmission de la foi. Très en lien avec l'éducation et avec l'enfance. Il y a des transmissions de métiers, de centres d'intérêt, de croyances. Donc, il y a aussi tout ce qui se transmet inconsciemment. Et là, c'est ce qui nous intéresse un peu plus dans le cadre de cette émission. Mais la famille, c'est le lieu de la transmission. Alors, transmission de la vie,
ben
d'abord,
oui, bien sûr, oui.
Premier. Transmission de l'amour aussi. Et puis tout un tas d'autres transmissions au travers de l'éducation.
Donc, conscient et inconscient.
Conscient et inconscient. Alors, on peut le mesurer déjà consciemment en termes de valeur. Je parlais de la foi aussi. En termes de goût. De goût alimentaire, par exemple, ou de goût vestimentaire. Souvent, ça nous a été transmis, les goûts alimentaires nous sont transmis dans notre famille. Ou en tout cas, si on est au bord de la mer, on mangera peut-être plus de poissons que si on est au milieu des terres ou des choses comme ça. Alors, en même temps, on sait bien que l'idéal, ça n'existe pas, et que si la famille transmet beaucoup de positifs, elle peut aussi transmettre parfois du négatif. Et dans ce cas-là, il va être nécessaire de faire avec et de gérer cet héritage qui serait négatif.
Alors, gérer, donc c'est... Un des aspects auquel on peut méditer.
Oui, il y a le premier commandement qui est de quitter son père et sa mère. Alors bien sûr, pour s'attacher à son conjoint, c'est une nécessité de quitter ses parents pour prendre son autonomie et être adulte et pour se marier.
Mais on sait que si on n'a pas fait la séparation, ça risque le.
Mais voilà, mais si on ne quitte pas, c'est du coup c'est plus compliqué de prendre son autonomie. Mais parfois, il est aussi nécessaire de quitter ce qui peut nous enfermer dans des transmissions inconscientes, en tout cas quand elles sont négatives. Sinon, on risque de répéter des choses. Et voilà, et parfois, ça peut être dramatique.
Alors, quand on parle d'inconscient familial, finalement, de quoi parle-t-on ?
Alors, en gros, souvent, on voit l'inconscient comme une boîte noire et puis on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Alors, il y a ceux qui ont lu un peu de psychologie et qui voient ça comme une espèce de poubelle où il y aurait tout ce qui serait pas bon en nous. Tout. Enfin, finalement, la conscience, c'est tout ce dont on n'a pas conscience, que ce soit au niveau de nos perceptions. Mm-hmm. On perçoit énormément de choses et finalement, on en est conscient de très, très peu dans notre vie. De nos sensations, de nos pensées, de nos comportements et puis de notre mémoire. Alors, l'inconscient va comprendre un certain nombre de conflits, de mécanismes qui peuvent être à l'origine de difficultés ou de pathologies. Ça, c'est plutôt l'inconscient qu'a regardé Freud, mais justement pour soigner les personnes. Mais c'est aussi le lieu des forces de vie qui sont en chacun.
Ah oui, bien sûr. Ça, c'est positif.
Voilà, ce qui veut dire que l'inconscient, c'est pas seulement ce qui pousse vers la répétition, mais c'est aussi ce qui pousse vers la vie et la guérison. Hein? Mm-hmm. Et là, il y a les deux visions. Il y a la vision freudienne, qui est plutôt la... Je crois que c'est Nasio, d'ailleurs, le docteur Nasio, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'inconscience et la répétition ». La vision jungienne, c'est aussi l'inconscient, c'est ce qui nous pousse à guérir. Il y a ces deux aspects.
C'est plus positif comme vision.
Ce sont deux regards, à mon avis, complémentaires plutôt, parce que c'est vrai que la répétition dans l'inconscient, c'est ce qui pousse aussi à répéter, mais c'est ce qui pousse aussi vers une solution. La répétition, c'est aussi chercher une solution. Et finalement, quand on regarde tous nos processus vitaux, on n'en a pas conscience, de temps en temps, on peut s'en rendre compte, mais notre cœur bat toute la journée sans qu'on y prête attention et sans qu'on en ait conscience, sauf quand on fait un effort. On respire, on digère, tout ça, ça se fait en dehors de notre conscience. Et on pourra dire qu'on n'en a pas le contrôle. Ce qui fait qu'il y a une grande partie de ce qui nous permet de vivre qui s'auto-régule d'une façon inconsciente. Et donc, il y a aussi un bon inconscient qui est source de vie en chacun d'entre nous.
Donc ça se fait, tout ce qu'on peut, c'est une bonne chose, ça fonctionne, c'est de rendre grâce.
Alors, ça, on peut...
cette fonction, même si on ne sait pas comment ça se passe... Mais
on peut en rendre grâce.
C'est une façon de prendre conscience, déjà.
Voilà, c'est une façon, de se remémorer qu'on est en vie qu'on accueille cette vie. On peut aussi se mettre en contact avec ses forces de vie et vraiment les accueillir. En rendant grâce, mais aussi en ressentant son corps, ressentant la vie qui nous anime. En accueillant tous les aspects positifs de la vie. Et puis, un autre aspect de notre inconscient, c'est qu'il comprend aussi une dimension qui nous relie aux autres et au monde, et puis pour le croyant, qui nous relie à Dieu.
Oui, c'est ça. Il a plusieurs fonctions, il a de nombreuses fonctions, finalement.
Oui, ce qui fait que, finalement, la vision de l'inconscient n'est pas une, mais elle est plutôt plurielle, où on pourra dire qu'il y aurait plusieurs inconscients, mais il n'y en a qu'un seul.
Mais plusieurs aspects, on peut dire.
Mais en tout cas, plusieurs aspects.
Oui.
Un inconscient archaïque qui concerne toute la toute petite enfance et peut-être même l'in utero. Mais qui pourrait concerner aussi l'histoire de l'humanité que chacun garde en soi. L'inconscient freudien, alors qui comprend aussi l'inconscient archaïque, donc c'est le plus connu, c'est celui qui concerne les pulsions, ce qui a été refoulé, les fantasmes. Il y aurait un inconscient créatif qui serait celui de l'intuition, l'intuition de la créativité. Un inconscient thérapeutique qui nous pousserait à guérir. Et d'ailleurs, quand on a la fièvre, ben voilà, c'est notre corps qui se met en mouvement pour conserver la santé et nous faire retourner à un état de santé. Et tout ça, on le commande pas.
Non.
Il y aurait un inconscient familial dont chaque membre serait porteur, mais qui relie les membres de la famille les uns aux autres. Et puis un inconscient collectif, alors là, plus vaste, qui concernerait nos groupes d'appartenance et sans doute l'humanité.
Alors on voit qu'il y a différents aspects hein, de cet inconscient, c'est très riche finalement.
Voilà, et du coup ça donne une vision que l'homme est relié aux autres non seulement consciemment, mais aussi par son inconscient, et que chacune de ces dimensions constitue en quelque sorte un champ dans lequel baigne l'individu.
Donc on voit... On baigne dans cet inconscient collectif et on est relié.
Et on est relié.
Alors, on va voir ça dans quelques instants, parce que je vois que c'est le moment d'écouter. Alors, je rappelle le téléphone à nos auditeurs, 01 56 56 44 00. Ce soir, avec Pascal Parinet et vous au téléphone, nous parlons eh bien, de notre histoire familiale et comment la gérer, comment gérer son histoire, notamment son histoire familiale. 01 56 2 fois 44 00 pour nous rejoindre. Et cette fois-ci, c'est Charles Aznavour qui s'adresse à sa fille, à ma fille, Charles Aznavour.
Radio Notre-Dame.
Je sais qu'un jour viendra. Car la vie le commande, ce jour que j'appréhende, où tu nous quitteras. Je sais qu'un jour viendra, où triste et solitaire, en soutenant ta mère et en traînant mes pas, je rentrerai chez nous, dans un chez nous désert, je rentrerai chez nous, où tu ne seras pas. Toi, tu ne verras rien des choses de mon cœur. Tes yeux seront crevés de joie et de bonheur. Et j'aurais un rictus que tu ne connais pas, qui semble être un sourire ému, mais ne l'est pas. En taisant ma douleur à ton bras fièrement, je guiderai tes pas, quoi que j'en pense ou dise, dans le recueillement d'une paisible église, pour aller te donner à l'homme de ton choix, qui te dévêtira du nom qui est le nôtre, pour t'en donner un autre que je ne connais pas. Je sais qu'un jour viendra, tu atteindras cet âge où l'on force les cages ayant trouvé sa voie. Je sais qu'un jour viendra, l'âge t'aura fleuri et l'aube de ta vie ailleurs se lèvera. Et seul avec ta mère, le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver, nous aurons un peu froid. Et lui qui ne sait rien du mal qu'on s'est donné, lui qui n'aura rien fait pour mûrir des années, lui qui viendra voler ce dont j'ai le plus peur, notre part de passé, notre part de bonheur. Cet étranger sans nom, sans visage, ô combien je le hais. Et pourtant, s'il doit te rendre heureuse, je n'aurai envers lui nulle pensée haineuse. Mais je lui offrirai mon cœur avec ta main. Je ferai tout cela en sachant que tu l'aimes, simplement car je t'aime le jour où il viendra.
C'était donc Charles Aznavour à ma fille. Ce soir, eh bien, nous parlons de l'histoire familiale. Donc voilà, nous avons des chansons qui parlent du père, de la fille, enfin toute la famille, quoi. Et donc, nous voyons comment se transmet l'histoire familiale. Et donc, en ce qui concerne la transmission de l'histoire familiale, on va voir comment ça se passe. Hein, et donc, voilà, on retrouve dans les familles des caractéristiques aussi. Hein.
Oui, qu'elles soient dues à la génétique d'ailleurs, des caractéristiques physiques ou physiologiques, oui, à l'éducation ou encore aux transmissions inconscientes. Et du coup, c'est un peu l'histoire de vouloir se débarrasser de tout ce qui a été transmis.
Faire table rase, non, c'est pas.
Voilà,
pas ce qu'il faut.
D'abord parce qu'il y a du positif.
Ben oui.
Et puis parce que ça serait un peu recouper les racines de l'arbre, un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et un arbre sans racines, ça peut pas pousser.
Le bon grain et l'ivraie doivent pousser ensemble. Voilà. Et puis après.
Voilà. Par contre, alors. Comme le bon grain et l'ivraie, c'est important d'en faire le tri.
Ah, bah oui. À un moment, il faut faire le tri.
En tout cas, quand l'impact est négatif, de corriger l'impact. En fait, c'est pas tant l'histoire qu'on change. L'histoire, c'est le passé, d'abord. On peut pas changer le passé, mais on peut en changer
l'impact sur le présent
et sur l'avenir.
D'accord.
Alors, on pourrait dire qu'il y a plusieurs hypothèses dont l'histoire familiale peut se transmettre. D'abord, il y a la transmission in utero. Et on sait que la mère et le bébé, enfin le fœtus, rêvent d'une façon synchrone. Je crois que c'est à partir du 5e mois, à peu près. Et il semblerait, ça c'est une hypothèse, qu'ils font le même rêve. Parce qu'on ne peut pas interviewer le bébé. Mais en tout cas...
Ça viendra.
Peut-être que ça viendra un jour. En tout cas, ils ont les mêmes réactions physiologiques. Et du coup, ça fait supposer que c'est le même rêve. Et il y a plusieurs chercheurs qui supposent que le sommeil, et notamment le sommeil paradoxal, permettrait en quelque sorte l'enregistrement de notre mémoire journalière, mais aussi qu'une fonction du rêve, ça serait la reprogrammation génétique. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on réécrit notre programme génétique toutes les nuits en rêvant.
Je pensais que c'était un programme génétique, il était là une fois pour toutes.
Non.
Non.
On le modifie. L'espèce humaine évolue.
Oui, bien sûr.
Quand on voit la taille des hommes du Moyen-Âge, par exemple, et puis la taille des jeunes générations, ça n'a plus rien à voir.
Ouais.
Et donc, on voit bien que l'espèce humaine évolue, même si elle évolue lentement et qu'il y a. Enfin, il n'y a pas des transformations très visibles,
mais on voit bien
il y a une évolution.
C'est inconscient. Qu'est-ce qui fait que cette évolution inconsciente ?
Ce qui voudrait dire que chaque nuit, on remettrait à jour notre programme génétique. Ou, dit autrement, on remettra à jour notre inconscient personnel et collectif chaque nuit. Et donc, il y a une hypothèse qui formule que, finalement, pendant le rêve synchrone avec son bébé, in utero, la mère transmettrait les données de son inconscient à celui de son enfant. Et donc, ça lui transmettrait en quelque sorte, alors, la partie inconsciente de son histoire familiale.
Et ça, à travers le rêve.
À travers le rêve. Et le sommeil paradoxal. C'est une hypothèse. On ne peut pas vérifier ce genre de données. En tout cas, pas aujourd'hui. Oui. Ça serait la première transmission in utero avant la naissance. Il y a une deuxième transmission, c'est à travers les relations. Dès la naissance, finalement, on est en relation très étroite avec sa famille, alors plus particulièrement avec ses parents. Et du coup, ils transmettent beaucoup de choses à travers des attitudes, à travers des paroles, à travers des silences, à travers les sentiments qu'ils expriment, et même à travers leurs rêveries. C'est-à-dire que, par exemple, la mère, si elle a un garçon ou si elle a une fille, elle va le rêver garçon, elle va le rêver fille. Et du coup, elle va projeter
quelque
sur
chose,
son enfant quelque chose que c'est un garçon et qu'il va devenir un homme. Ou que c'est, voilà. Et tout ça, c'est transmis d'une façon inconsciente. Alors, en tout cas, le bébé, il n'en a pas vraiment conscience.
Non,
la mère peut l'exprimer à voix haute, elle peut lui dire « Ah, mon petit homme » ou je ne sais pas trop quoi, mais le bébé... Voilà.
Oui.
Mais en tout cas, à travers, à travers l'imaginaire de la mère, à travers ses pensées, l'enfant, ça va être transmis à l'enfant.
C'est subtil, hein, on voit. C'est donc par l'inconscient, ça.
Alors, ça se fait inconsciemment. C'est ce qu'on appelle l'identification projective. Et donc, la mère va s'identifier ou s'imaginer cet enfant, s'identifier à lui et reprojeter en lui tout ce qu'elle aura imaginé. Et puis, les enfants, un peu plus tard, quand ils parlent, ils posent beaucoup de questions aussi à leurs parents sur leur histoire, sur comment ils étaient enfants, comment étaient les grands-parents, tout ça.
C'est ça, bien sûr, ils veulent connaître, c'est normal.
Ils veulent connaître. Et du coup, les parents, ils transmettent aussi à travers ça. Et il arrive que ils aient pas trop envie de transmettre, par exemple quand il y a un secret de famille. Mais en tout cas, ce qu'ils vont dire, la façon dont ils vont répondre, et même les silences ou ce qu'ils ne vont pas dire, finalement, ça va transmettre un message à l'enfant.
Ah, même les silences. D'accord.
Et tout ça, va nourrir l'inconscient.
Alors. Autre forme encore de transmission d'histoire familiale. On a vu donc la transmission in utero à travers les relations.
Voilà. Après, il y a la vision systémique où, chaque famille constitue un système qui a sa propre existence.
Oui.
On appelle ça la famille. Et on le sait que le tout est plus que la somme de chaque élément qu'il compose. Par exemple, une voiture, c'est plus qu'un pneu, un siège. De la même façon, une famille, c'est plus que chaque élément, chaque personne qui la compose. Avec la différence, c'est que la famille, c'est fait d'individus qui sont vivants. Et du coup, la famille a une existence en tant qu'elle, en tant que telle. Elle a ses propres règles, elle a ses propres modes de fonctionnement.
Oui, ça varie d'une famille à l'autre, c'est très divers.
Qui varie d'une famille à l'autre. Et que même si chacun peut avoir une vision de sa famille, par exemple, on peut penser que tel frère est plus proche de tel autre frère ou de tel cousin, que certains s'entendent, que d'autres s'entendent pas, tout ce qu'on peut dire au sein d'une famille. Finalement, on voit que chacun a seulement en partie conscience des liens qui unissent les autres membres de sa famille, et même que au sein de la famille, plusieurs personnes peuvent avoir des visions différentes. Et pourtant, il y a une seule réalité, des liens et de l'histoire de la famille. Et ça veut dire que la conscience, finalement, ne perçoit qu'une partie de cette réalité. Mais par contre, l'inconscient familial, lui, il garde, en quelque sorte, en mémoire, cette réalité.
La mémoire de la famille.
La mémoire de la famille, la mémoire des liens entre les membres, les règles familiales.
Mais même lorsque vous disiez tout à l'heure que on existe tant, enfin, dans le souvenir, que tant qu'on a souvenir d'une personne, il y a une influence.
Oui.
Est-ce que c'est du même rapport, enfin,
Oui, c'est du même ordre. C'est-à-dire que nous, on peut se faire une représentation des liens et du mode de fonctionnement de ces liens dans la famille. Mm-hmm. Chacun peut s'en faire une, alors ça peut correspondre, ça peut ne pas correspondre, mais il y a une seule réalité, il y a une seule vérité en quelque sorte. Et finalement, c'est dans cet inconscient familial que vont être vraiment perçues les vraies règles, la vraie histoire, les vrais liens entre les personnes. Même si chacun peut les voir en partie ou plus ou moins déformés.
C'est donc l'inconscient garde tout cela comme une sorte de gardien de mémoire.
Oui, alors c'est plus que c'est constitutif de l'inconscient familial, c'est-à-dire que c'est finalement c'est la dynamique et la structure de cet inconscient familial qui est en quelque sorte la base de fonctionnement de la famille. Et après, il y a ce qui se passe d'une façon plus consciente, plus visible.
Alors donc, on voit que... Donc chaque famille a ses propres règles, son propre mode de fonctionnement.
Sa propre mémoire.
Sa propre mémoire aussi, oui. Et c'est bon et ça peut être mauvais à la fois, non ?
Alors,
ni l'un ni l'autre.
On pourra dire, ça dépend ce qu'on en fait.
Oui.
C'est pas le fait que... qui est un inconscient familial, qu'il soit bon ou mauvais, c'est le fait, par exemple, de rejeter un membre de la famille ou de garder un secret dans la famille. Tout ça, ça va venir perturber la nature des liens.
Oui. Donc, on voit que plusieurs personnes aussi d'une même famille peuvent avoir aussi des visions différentes. Hein. On n'est pas tous... on constitue une même famille, mais on est tous différents.
Alors, on est tous différents, mais on perçoit les choses différemment. Ah, et c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, la réalité est une.
Oui.
Mais chacun peut la percevoir alors d'une façon juste ou d'une façon déformée ou d'une façon complètement déformée. Ce qui veut dire que finalement on est conscient que partiellement de la réalité des liens familiaux, alors que l'inconscient familial va garder en lui ces liens-là tels qu'ils sont réellement.
Tels qu'ils sont réellement dans la réalité du quotidien ou bien ce qu'ils doivent être ?
Non. Dans la réalité du quotidien, c'est-à-dire leur nature telle qu'elle se manifeste réellement, même si nous, on ne le perçoit pas consciemment.
D'accord. Alors, donc, la famille, aussi bien, est composée d'êtres vivants, hein, Et donc, tout. Voilà. A donc une mémoire aussi familiale, consciente. Voilà.
Il y a une mémoire consciente et inconsciente de la famille. Et non seulement de la famille et des membres de la famille, mais aussi des dynamiques familiales. Hein. Mm-hmm. Et c'est surtout ça, finalement, qui est important. Ce n'est pas tant, le nombre de membres, ou, c'est surtout la qualité. Alors, quand on parle de dynamique, on parle de la nature et de la qualité des liens. Voilà. Et en même temps, chaque membre de sa famille porte en lui cet inconscient familial.
Ah oui.
Voilà, même si consciemment il n'en perçoit qu'une partie plus ou moins juste.
Mm-hmm. Alors, voilà, on va voir dans quelques instants justement quelles sont les influences de tout cela, hein, qui peuvent s'exercer, se transmettre.
Radio Notre-Dame. Ecclésia Magazine, Élodie d'Ambrécourt.
La résurrection du Christ n'est pas un fait relevant du passé, elle a une force de vie qui a pénétré le monde. Le pape François n'a eu de cesse de le répéter dans la joie de l'Évangile. Cette vitalité chrétienne visible dans le monde, les paroisses, mouvements et diocèses, je vous invite à la découvrir au quotidien dans Ecclésia Magazine, du lundi au vendredi à 9h30.
Chaque semaine, du lundi au vendredi, Christine Pellistrandi nous éclaire sur le sens des mots. Le sens des mots avec Christine Pellistrandi. C'est du lundi au vendredi à 6h33 sur Radio Notre-Dame.
Lors de mes voyages, j'ai côtoyé le meilleur, mais j'ai aussi vu le pire. J'ai vu des familles perdre leur terre et des enfants souffrir de la faim. Même si ces enfants ne sont pas les miens, j'ai décidé de faire un legs, parce que l'humanité est une seule et grande famille. Avec le CCFD Terre Solidaire, j'apporte ainsi ma pierre pour construire un monde plus juste.
Demandez notre brochure Legs. Appelez au 3620 et dites Legs. Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre solidaire. Tous humains contre la faim.
Dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, ce soir avec Pascal Parinet, eh bien nous posons la question de comment gérer son histoire, notamment son histoire familiale, puisque chacun a une histoire familiale. Et donc, est-ce que vous avez quelque chose dans les, vous proposer dans l'Institut de formation psychrétien, quelque chose sur l'histoire familiale?
Oui, alors oui, on a un stage au mois de janvier, les 26 et 27 janvier.
C'est un week-end?
Non, c'est un lundi-mardi.
Lundi-mardi.
Oui, je ne travaille pas le week-end.
D'accord, vous avez bien raison. Voilà, c'est qu'on ne travaille pas le dimanche.
Oui.
Alors, lundi 26 et mardi 27 janvier, et c'est comment...
Voilà, comment gérer son histoire familiale.
D'accord. Et pour s'inscrire...
Alors, pour s'inscrire, il y a deux solutions. Le téléphone,
oui.
Donc le 06 60 15 79 60.
Oui.
06 75 79 60.
Oui.
Ou alors le site internet IFPSI.
Oui. IFPSI tout attaché.
Voilà. Donc ifpsy.com.
D'accord. Donc deux solutions, 06 60 15 79 60. ou le site ipsy.com.
IF.
IF, IF, oui.
Comme Institut de formation.
Institut de formation psy, c'est-à-dire IF, psy, tout attaché, .com.
Voilà.
Alors, comment gérer son histoire familiale? Nous vous invitons à nous rejoindre pour bien apporter ce que vous souhaitez. Pascal Parinet pourra vous donner un éclaircissement, voilà, une orientation, une réflexion. Donc 01 56 56 44 00 pour nous rejoindre. Et nous avons en ligne tout de suite Chrysolin. Chrysolin, bonsoir.
Oui, bonsoir.
C'est votre, c'est bon, c'est comme ça que l'on dit, Chrysoline.
C'est Chrysoline, pardon.
Voilà, Chrysoline.
En fait, j'avais cette question, quand des personnes dans la famille sont dépressives, les parents, grands-parents qui sont aujourd'hui décédés, ou des oncles et tantes encore vivants aujourd'hui, comment faire pour couper ce lien de dépression?
Alors, c'est-à-dire, c'est pas tellement couper le lien, c'est... Comment ne pas être dépressif soi-même.
Mm-hmm.
Alors, c'est pas parce que dans la famille il y a des personnes dépressives, il n'y a pas de déterminisme. Hein. Même si on constate quand même que plus il y a de dépressifs, enfin, plus il y a de problèmes psychologiques dans une famille, plus il y a de risques pour que les générations d'après en aient aussi. Alors après, comment faire? Le mieux, si ça va, si la personne va bien, il n'y a rien à faire. Si elle-même, elle est dépressive, il faut qu'elle se fasse aider, qu'elle fasse une thérapie.
D'accord.
Hein?
D'accord. Et quand ça suit, même pour les enfants ou autres, on a l'impression que oui, ça... Pareil, une thérapie aussi.
Oui, oui. Voilà. Et de toute façon, la dépression, ça nécessite une thérapie. Il y a deux aspects. C'est maintenant reconnu. Il y a eu un livre blanc de la dépression qui est sorti, ça fait quelques années maintenant, qui conseille la thérapie. Alors, pour deux raisons. D'abord, les antidépresseurs, par exemple, peuvent aussi soigner la dépression, mais ils soignent pas
la cause.
Ils soignent pas la cause profonde dans la personne, ou ils soignent pas l'environnement.
Uh-huh.
Et du coup, le meilleur moyen pour éviter les rechutes, c'est la psychothérapie.
D'accord. Ah. D'accord.
Voilà, je ne sais pas si
voilà,
j'ai répondu.
D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup.
De rien.
Merci à vous d'avoir posé cette question. Bonsoir, Chrysoline.
Bonsoir.
Je crois que c'est Véronique qui est en ligne. Bonsoir, Véronique.
Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Monsieur Parinet.
Bonsoir,
je vous appelle parce que je suis la fille unique d'une dame de 72 ans qui est malade d'Alzheimer depuis quelque temps. Ma maman a été adoptée à l'âge de 13 mois. Lorsque sa maman a compris qu'elle allait céder, elle a choisi une ligne d'adoption pour s'assurer que ma maman n'irait pas dans un foyer d'enfants. Et l'adoption s'est plutôt bien passée puisque ma maman était heureuse avec un couple et de parents et puis deux frères. Et si vous voulez, malgré tout, l'adoption est quand même une plaie ouverte puisque lorsqu'elle est devenue maman elle-même, si vous voulez, ne pas pouvoir mettre de visage sur... ou un nom son papa par exemple, nous avons une seule photo de la maman biologique de ma maman. Elle s'est posé beaucoup de questions et ça a été quand même une douleur. Elle a été une très très bonne maman pour moi, elle l'est toujours malgré la maladie, et je suis sa seule fille. Et lorsqu'elle a compris que je n'allais pas avoir d'enfant, elle a eu cette phrase qui a été je n'ai pas connu mes parents, j'ai été adoptée et je ne serai pas grand-mère. Et quelques semaines après, la maladie d'Alzheimer s'est déclarée. Et cette question me taraude, monsieur, à savoir, est-ce que pensez-vous que maman, inconsciemment, aurait sombré dans l'oubli de façon à se protéger de quelque chose de trop douloureux à porter, lié à son enfance, lié au fait que moi, je ne donnerai pas de descendance non plus, et quelque chose d'insupportable qu'elle aurait souhaité d'être oubliée. C'est quelque chose qui me tient éveillée à longueur de journée, puisque cette maladie reste pour l'instant un peu mystérieuse. Elle, ouais. Voilà. Alors je me tourne vers vous.
Voilà. Ben, d'abord, c'est une maladie un peu mystérieuse, mais malgré tout physique. Donc, je crois qu'il y a d'abord, avant tout, l'aspect physique. Après, ce qui est possible, parce que vous, dans ce que vous dites, c'est que elle a eu une prise de conscience, en quelque sorte, ou une prise de conscience émotionnelle, peut-être, juste avant le déclenchement de sa maladie.
Oui.
Ce qui est possible, mais ça, ce n'est qu'une hypothèse, et ça arrive dans certaines maladies physiques, notamment dans le diabète aussi, c'est la maladie est là. Simplement, elle n'est pas manifeste. Et un choc émotif peut la rendre manifeste. Vous voyez ?
Oui.
Par exemple, les enfants diabétiques par hérédité, de toute façon, ils seront diabétiques.
D'accord.
Simplement, un jour, il y a une émotion ou il y a un événement qui fait que ça se manifeste. Mais ça aurait pas été cet événement-là, ça aurait été, je sais pas, un an, deux ans après, un autre événement. Donc, voilà ce que j'ai envie de dire. Peut-être cette prise de conscience a participé au basculement dans la maladie, mais la maladie était sous-jacente, elle était là, et elle serait déclarée un peu plus tard, vous voyez ?
J'entends bien, monsieur. Je voulais vous poser une dernière question. J'ai dû, il y a 15 ans, m'installer dans une région pour des raisons professionnelles, et il se trouve que je suis dans le département dans lequel la maman de ma maman a donné vie. Donc je suis à quelques kilomètres de cette ville-là. Je suis également à quelques kilomètres de la ville où la maman d'adoption de ma maman est décédée.
Ouais.
Alors ce n'est pas du tout la région d'origine de la famille, ni la famille adoptive, ni la famille biologique. Et alors... Ça n'engage que moi, mais je m'interroge en me demandant est-ce que je suis cette troisième maman ? Il y en a une qui a donné la naissance, l'autre qui a adopté. Est-ce que je suis, maintenant qu'elle est malade, cette troisième maman, entre guillemets, qui va l'accompagner jusqu'au bout ?
Peut-être, c'est possible.
Je l'interprète comme ça, c'est peut-être très risqué,
ouais.
Si vous voulez, mais la coïncidence ne me blesse pas, elle m'interroge, mais... Elle me nourrit également parce que j'accepte parfaitement d'être la maman de ma propre maman. De toute façon, la maladie me guide vers cela. Et je trouvais que le lien géographique était intéressant à un moment où elles ont été déplacées elles-mêmes de leur région d'origine.
Oui. Alors, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute en tout début d'émission.
Je l'étais, monsieur.
Voilà,
vous avez entendu
à un moment, j'ai dit, on revient sur les mêmes lieux.
Oui.
Vous voyez, et ça, moi je suis persuadé que quelque part on est dans un champ, un peu comme le champ d'un aimant, si vous voulez, hein, qui nous ramène dans des mêmes lieux ou à recroiser certains types de personnes, vous voyez, et sans doute, y a quelque chose qui vous a attiré dans ce lieu. Alors, une mutation professionnelle peut-être, mais vous voyez, moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond que ça, et que peut-être vous avez quelque chose à y faire, ou quelque chose à y découvrir pour vous, ou peut-être, comme vous le dites, d'accompagner votre mère. Dans cette période de maladie.
Comme une maman, oui, la protéger. Oui. Bien, oui.
Je me sens la troisième maman sur la liste et quelque part ça me fait très plaisir puisque je ne donnerai pas la vie moi-même.
Oui.
C'est une maternité que j'accepte et à laquelle je ne m'attendais pas.
Ah, oui,
voilà, mais c'est ce revers de... La maladie apporte aussi des joies. Même si c'est très paradoxal, je ne me réjouis pas de la maladie de maman. En revanche, les liens sont là et quelque part, c'est beau aussi.
Oui, voilà, mais voilà. C'est pas la maladie qui amène la joie, c'est le lien d'amour.
Oui, oui. Hein? Oui.
C'est le lien d'amour qu'il y a entre vous et votre mère qui vous donne cette joie.
Oui.
Eh bien, je vous remercie infiniment.
Merci à vous, hein, Véronique.
Bonsoir
à vous aussi.
Au revoir.
Nous avons en ligne Marie-Christine tout de suite. Bonsoir Marie-Christine.
Oui, bonjour madame, bonjour monsieur Barinet.
Bonsoir.
Voilà, je vous appelle parce que moi, je suis née dans des circonstances un peu particulières. Je suis née en Algérie, ma mère était juive d'Algérie, mon père était corse. Et en fait, ma mère a accouché de manière prématurée, je suis née un mois d'avance. Je pesais 2,1 kg. Et en fait... elle a eu une crise d'éclampsie pendant que, c'est-à-dire qu'on a fait de l'hypertension, quoi. Et on a failli mourir toutes les deux. Hein.
Ouais.
Et en fait, cette naissance ça pose beaucoup de questions parce que on dit que le fait d'être prématuré, ça prédispose aux difficultés psychologiques. Et moi, j'ai eu un suivi pendant 12 ans, de l'âge de 18 ans à l'âge de 32 ans, quoi, à peu près. Après, je m'en suis sortie. Mais j'ai eu des problèmes, j'étais un peu borderline, quoi. Je transitais de la psychose à la névrose, j'avais beaucoup de mal à j'avais un peu des pensées obsessionnelles, des pensées obsédantes, etc., quoi. Et donc, je m'en suis sortie, mais je me demande si le grec aussi que les accouchements difficiles, comme ça prédispose aussi. Et comme je suis aussi la seule de la famille à avoir la foi, bon, on a tous été au catéchisme et tout, je suis la seule qui a gardé la foi. Pendant cette période difficile, pendant cet accouchement, la sage-femme qui a accouché ma mère avait récité des prières à Sainte Rita.
Oui.
Alors je me demande si ça a pas, si j'ai pas capté ça, si ça m'a pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, déjà, pour vous donner une réponse, il faudrait faire une analyse. Parce que là, vous remontez dans des choses archaïques. Et il n'y a qu'en analyse où on peut vraiment retrouver votre vécu et les conséquences de ce vécu. Alors, ce qu'on peut dire, par contre, prématuré d'un mois, vous savez, c'est pas beaucoup. On parle de risque, mais pour les grands prématurés, un mois, enfin, vous voyez.
D'accord.
Je pense pas que ça ait vraiment une influence. Dans la mesure où il y a un accueil qui est bien bienveillant après quoi. Alors par contre l'accouchement difficile ça a un impact notamment que je me souvienne je crois que c'est Otto Rank qui disait que la naissance est le réservoir de toutes les angoisses, ou le prototype de toutes les angoisses futures. Ce qui fait que une naissance très difficile, l'enfant va accumuler de l'angoisse et peut revivre cette angoisse par la suite. Voilà, mais après, c'est pas le seul facteur. En fait, on dit un tiers, donc un tiers in utero, un tiers naissance et un tiers acquis. Enfin, non, c'est plus que ça. C'est un tiers génétique, donc au niveau psychologique, hein, dans les transmissions.
Oui, de toute façon, ma mère est très angoissée elle-même.
Voilà.
Hein,
il y a un tiers. Comme ça, hein, c'est un peu simplifié, mais un tiers qui pourrait être de l'ordre d'une transmission génétique ou du moins de l'aspect biologique de la personne. Un tiers qui serait entre la conception et la naissance. Donc, tout l'inutéro jusqu'à la naissance, et puis un tiers après dans la partie vécue de l'enfance et de la vie. Quoi.
Donc, voyez, parce que ma mère, j'ai toujours eu une relation difficile avec ma mère. Bon, je ne sais pas si du fait qu'elle a eu un accouchement difficile, elle a eu des problèmes avec moi ensuite. Enfin, j'étais son premier enfant.
Oui.
Et elle a eu beaucoup de problèmes de communication avec moi. C'est-à-dire qu'elle était apparemment assez nerveuse, assez angoissée. Elle avait fait un mariage, mon père et elle s'aimaient beaucoup, mais c'était un couple qui fonctionnait très mal, qui était assez déséquilibré. Donc ça a influé sur son humeur. Elle était un peu dans la maltraitance, dans la maltraitance gentille, si vous voulez, elle ne battait pas, quoi. Mais elle était, elle était maladroite dans sa façon de m'interpeller, dans sa façon de m'éduquer. Elle était un peu... Puis bon, elle avait été élevée de manière très dure par sa mère, vous voyez, qui était assez rigide. Donc elle reproduisait un peu ça, quoi. Ce qui fait que moi, j'ai eu un gros problème de communication avec elle et même à l'âge adulte, j'ai pas réussi à le surmonter. Même elle est morte, j'ai pas réussi à le... Bien que le chemin a été fait, intellectuellement, j'avais compris ce qui s'était passé et j'en voulais pas. Mais en même temps, elle était très, elle avait une espèce de retrait par rapport à la vie. C'était une grande phobique sur le plan social, quoi. Elle est dans l'évitement par rapport à tout, quoi. Elle a même empêché mon père de faire sa carrière jusqu'au bout à cause de ça, parce qu'elle voulait pas fréquenter les relations professionnelles, etc. Donc elle nous a élevés dans un grand isolement, si vous voulez, et elle-même, vivait de manière très resserrée, très s'exprimant peu, enfin parlant peu d'elle-même, enfin je veux dire. Et en fait, j'ai toujours une sorte de mur de glace, prenez-moi.
Oui. Oui, mais voyez, dans tout ce que vous dites de votre relation, c'était pas forcément évident pour un enfant d'intégrer les phobies de votre mère ou ses angoisses, enfin, de les comprendre, de les intégrer. Vous voyez, c'est pour ça, peut-être vous pouvez faire un paquet depuis votre naissance et tout ce qui s'est passé après, peut-être ça fait à peu près deux tiers de toute cette période angoissée que vous avez pu avoir.
Oui, c'est ça. Ah. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup.
Et merci à vous, Marie-Christine.
Je vous en prie.
Bonsoir.
Merci pour votre émission.
Au revoir.
Voilà, 0156 2x44 00 pour nous rejoindre. Comment gérer son histoire familiale? On se retrouve dans quelques instants.
Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur la vie de l'Église à Paris. Cette semaine, découvrons un reportage sur le pèlerinage des séminaristes à Lourdes. Ils sont plus de 800 à avoir répondu à l'invitation des évêques de France à se rassembler autour de la Vierge Marie du 8 au 10 novembre. Abonnez-vous au journal du diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 00. Paris Notre-Dame, c'est aussi chaque semaine les programmes de Radio Notre-Dame et les coups de cœur de la rédaction. Contactez le 01 78 91 92 00.
La Bible, pas à pas.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne. Que dirais-tu de m'accompagner chaque semaine, pas à pas, sur le chemin de la Bible?
Ok. Mais pourquoi faire?
Pour y ramasser des petits cailloux blancs. L'idée, c'est de s'arrêter à chaque symbole attaché à un personnage biblique.
Ah, comme la colombe de Noé ou le buisson ardent de Moïse.
Ou même les lions du prophète Daniel.
Et tu nous aideras ainsi à comprendre les Écritures.
C'est ça.
La Bible, pas à pas, avec Jocelyne et Étienne Tarnot. Tous les dimanches à 9h30 sur Radio Notre-Dame. Histoire d'en parler. Le 20e siècle. L'ère des guerres mondiales, des totalitarismes, des génocides, et pourtant, la France a rarement connu une telle vitalité chrétienne qui illustre les noms de Maritain, Claudel, Bergson, Mauriac, Bernanos et bien d'autres. Je vous invite donc à franchir avec moi la porte étroite d'où fuse la lumière de l'espérance. Histoire d'en parler avec Jean-Paul Clément, tous les dimanches à 10h15 sur Radio Notre-Dame. Chaque matin, nourrissez-vous de la parole de Dieu et attaquez sereinement votre journée. L'Évangile du jour, lu et commenté avec profondeur, c'est chaque matin à 6h26, 7h26 et 8h26 sur Radio Notre-Dame.
Radio Notre-Dame.
Voilà, donc ce soir, nous parlons de l'histoire, de comment se transmet l'histoire familiale. Nous avons vu que il y a plusieurs hypothèses ou façons dont l'histoire familiale peut se transmettre. Hein. Quelles sont les influences, Pascal Parquinet, qui peuvent s'exercer aussi et se transmettre, consciente ou inconsciente?
Alors, la première influence, ça va être le lien entre les générations.
Oui,
qui est quelque chose d'important. En général, on dit sur 3-4 générations, mais ce qui est surtout important dans ce lien en génération, c'est tout ce qui a été les personnes exclues, les personnes cachées, les choses, les événements cachés, tous les secrets de famille, ou les exclusions, parce qu'elles vont bloquer la circulation des liens dans la famille. Et tant qu'on ne redonne pas une juste place, par exemple, à une personne exclue, tant qu'on ne reconnaît pas qu'elle a sa place dans la famille, même si on ne l'aime pas, mais elle a quand même
elle a sa
place,
bien sûr.
Ce moment-là, ça crée des difficultés.
Mais est-ce que même s'il y a une seule personne dans la famille, puisque elle peut être exclue de beaucoup, mais une seule personne qui reconnaît la place qu'elle a, est-ce que ça la réintègre?
Alors, ça la réintègre, oui.
Si une seule personne reconnaît.
C'est important. Ça ne résout pas toujours.
Oui.
Mais en tout cas, pour la personne qui reconnaît, ça va déjà soulager pour elle cet aspect-là.
Oui.
Pour les autres, pas toujours, ça dépend.
Oui, oui. Mais pour la personne concernée, est-ce que ça...
Pour la personne concernée, oui, c'est important.
Qu'il y ait au moins une personne qui reconnaisse.
Oui. Alors, c'est important, pas toujours, elle peut être décédée, hein, parfois cette personne peut être décédée. Ce qui est important, c'est vraiment qu'il y ait quelqu'un qui redonne la place.
D'accord.
Et quand c'est toute la famille, c'est encore mieux.
Bah oui, bien sûr.
Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle les loyautés, c'est l'équilibre des échanges. C'est comme s'il y avait un compte inconscient des échanges dans la famille, à la fois entre ce qui est donné et ce qui est reçu, dans le bien et dans le mal. C'est pour ça que c'est important de mettre de la bienveillance dans les familles, parce que plus l'équilibre dans le bien pèsera lourd, plus celui dans le mal
sera plus faible. Les deux plateaux, il vaut mieux que le plateau positif, on comprend.
Et puis pour rééquilibrer au besoin, y a soit la réparation.
Oui. Hein,
quand on répare quelque chose,
on
remet dans le bien.
Ou
alors les concessions, parce que la concession, c'est une façon d'aller vers l'autre, de lui dire qu'il est plus important et que la relation est plus importante que l'objet de la discorde.
Mmh.
Et donc, ça rééquilibre dans le bien. Et puis le pardon aussi. Parce que quand on pardonne, eh bien, c'est un acte d'amour. Et si on refuse de pardonner, on perd l'amour.
Oui, c'est ça, bien sûr. Oui.
Voilà. Et puis, il y a une autre forme de loyauté qu'on retrouve. D'ailleurs, je suis en train de penser à notre auditrice qui a une mutation, là. Par exemple, si une mère qui a élevé seule ses enfants, il peut y en avoir un qui ne va pas se marier, par exemple, pour pouvoir rendre ce qui lui a été donné quand elle sera âgée. Et ça, alors ça peut être fait consciemment.
C'est le cas de notre auditrice. Hein.
C'est le cas de notre auditrice qui dit je vais pouvoir m'occuper de ma mère ou être la mère.
Véronique nous disait ça.
Voilà. Et ça, c'est sa liberté.
C'est conscient, c'est volontaire, c'est voilà, sa liberté. Donc, le choix, il en est même heureuse quelque part, oui.
Et puis, ça peut être inconscient. Alors, ce qui est important, c'est de le mettre à jour. Parce que finalement, cette loyauté, elle a quelque chose de bon.
Une reconnaissance quelque part
de reconnaissance, de l'amour. Voilà. Mais si elle n'est pas mise à jour consciemment, la personne risque de vivre, par exemple, des échecs affectifs répétés.
Sans voir, et que ça vient de là, ce qu'elle n'a pas mis.
Sans voir que c'est en lien avec cette loyauté. Et du coup, de le rendre conscient, ça va permettre à la fois peut-être de réussir sa vie affective, tout en conservant cette loyauté.
D'accord.
Et il ne s'agit pas de dire ma mère, je m'en moque, je la laisse tomber. C'est pas de ça qu'il s'agit, mais de rendre conscient pour pouvoir non pas être dans l'échec à cause d'une loyauté qui serait positive, mais de pouvoir vivre les deux.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a une circulation qui se rétablit de la vie, de l'amour.
On trouve aussi d'autres loyautés dans le fait de ne pas pouvoir sortir de son milieu social et donc de ne pas pouvoir réussir, par exemple, dans la vie pour éviter de creuser un fossé social trop important avec sa famille. Mais là aussi, c'est pareil, quand la personne en est consciente, elle, elle peut réussir
sa
vie.
Oui, c'est ça.
Tout en conservant le lien avec sa famille.
Bien sûr. D'autres influences encore qui peuvent se transmettre?
Alors, il y a ce qu'on appelle les intrications systémiques. Ça, c'est quand ça fonctionne vraiment mal.
Qu'est-ce que c'est, alors?
C'est quand, par exemple, quand une personne de la famille est exclue, il y en a un qui sera poussé inconsciemment à reproduire le même type de vie. Et donc, du coup, il va se comporter comme s'il était rejeté ou abandonné. Et là, il est pour régler ça, c'est là où il est important de redonner sa place à la personne exclue, de façon à ce que celui qui répète le comportement ne puisse arrêter de répéter.
C'est ça, voilà.
Voilà. Après, il y a tous les événements importants, des événements graves, comme une maladie, un accident, un décès. Ça va perturber la famille, et ça, c'est normal.
Oui, on comprend, oui.
Et les relations changent. Alors, on peut, par exemple, se soutenir et la famille va devenir encore plus solidaire. Mais parfois, il va y avoir des tensions ou des rancunes qui vont jaillir, par exemple, dans les successions. C'est très souvent qu'il y a des conflits un peu larvés ou des choses de l'enfance, des rivalités d'enfance ou des difficultés de l'enfance qui ressortent à l'occasion des successions. Mais justement parce qu'il y a un deuil qui est difficile à faire. Et on pourrait dire que toutes les situations traumatiques, elles perturbent non seulement les personnes, mais également tous les liens dans la famille.
Est-ce qu'il y a encore d'autres influences qui peuvent se transmettre?
Alors, les identifications,
c'est
quand un enfant, par exemple, est identifié à un autre membre de sa famille. Alors, c'est un processus qui est assez courant, mais il doit se défaire à un moment de ses identifications pour trouver sa propre identité.
Par exemple, parce qu'il ressemble à...
Voilà, ou qu'on lui dit qu'il ressemble à son grand-père, par exemple, ou à son oncle.
Il faut qu'à un moment donné, il devienne lui-même.
Il faut qu'à un moment donné, il devienne lui-même. Alors, parfois, il y a des aspects positifs, par exemple, de choisir le même métier, de réaliser les mêmes choses. Mais voilà, donc ça peut donner une dynamique positive, mais il y a un moment, il faut qu'il devienne lui-même. Et puis quand les identifications posent problème, autrement dit, quand l'enfant s'identifie à une personne qui a souffert, soit d'accident, soit de maladie, ou qui a été exclu, à ce moment-là, c'est important qu'il y ait cette prise de conscience et de pouvoir faire le deuil de cette identification.
Oui, oui. Alors, donc, par exemple, lorsque il y a des choses qui peuvent... si l'identification, le processus d'identification...
Voilà, il y a ce qu'on appelle les enfants de remplacement, par exemple, qui vont s'identifier à l'enfant mort juste avant eux et qui, du coup, ne pourront pas vivre. Mm-hmm. Et donc, vont avoir être plutôt dans une non-vie. Alors, ça peut être soit de vivre la vie que l'autre aurait dû avoir...
Oui.
Soit d'être dans la non-vie et
ne pas être soi-même de toute façon.
Dans les deux cas, ne pas être soi-même. Voilà.
Alors,
on disait tout à l'heure aussi de s'identifier à une personne qui a été rejetée et du coup, l'enfant ou l'adulte qu'il est devenu va se comporter comme s'il était lui-même rejeté. Voilà.
D'autres exemples?
Alors oui, il y a un autre aspect qui, donc, dans ces transmissions, c'est ce qu'on appelle les injonctions.
Oui, c'est encore d'autres influences, c'est-à-dire les injonctions.
C'est une autre influence qui correspond aux étiquettes qu'on a projetées sur une personne. Et je repensais à une personne qui avait 35 ans, qui se trouvait en dépression, avec une situation professionnelle difficile. Et puis au cours de la thérapie, elle s'est rappelée qu'à l'adolescence, son père lui avait dit que de toute façon, elle ne ferait jamais rien de bien dans la vie. Et en fait, elle avait oublié cette injonction, mais elle était en train de la réaliser dans sa vie.
Elle en a pris conscience.
Et elle en a pris conscience au cours de la thérapie. Et en fait, ce que la personne répète dans ce cas-là, c'est la prédiction qui est posée sur elle et qui est devenue, en quelque sorte, une loi pour sa vie.
Ah oui, oui.
Et on pourrait dire chaque fois qu'il y a une prédiction ou une injonction sur une personne, c'est important d'en prendre conscience que, d'abord, que ce sont que des paroles, et de ne pas en faire une loi de... J'allais dire une loi de vie, mais plutôt une loi de mort.
Une loi de mort, oui.
Ou d'en faire une croyance. Et ça, ça veut dire de réapprendre à être libre par rapport aux paroles des autres, d'autant plus quand elles sont négatives.
Oui, c'est ça, bien sûr. Prendre une distance et remettre à leur place. D'autres influences qui peuvent se transmettre?
Alors, une autre influence, c'est de faire payer. Il arrive quand une personne a manqué d'affection ou pire, quand elle a été maltraitée, par exemple, dans l'enfance, que devenue adulte, elle fasse payer aux autres. Alors, souvent, les personnes, quand c'est comme ça... elles disent qu'elles peuvent pas se contrôler ou qu'elles ont hérité du mauvais caractère de leur père ou de leur mère. Mais finalement...
Mais en fait, qu'est-ce que c'est que...
Quand on regarde d'un peu plus près, c'est simplement qu'elles font payer aux autres ce qu'elles ont subi et que...
Mais c'est inconscient, c'est comme...
Mais c'est inconscient, oui.
Oui, oui.
Et du coup, elles sont dans la répétition...
Ah, c'est une répétition, bah,
dans une répétition, mais en plus dans une répétition qui sert un peu de vengeance ou qui fait payer aux autres.
Mais on dit par exemple un enfant qui a été violé, reproduit.
Oui, alors il n'y a pas, c'est pas systématique. Je crois que c'est important de dire, c'est pas parce qu'un enfant a vécu quelque chose, que ce soit des abus sexuels ou de la violence, qu'il va forcément reproduire. Mais ça arrive. Ça arrive qu'ils reproduisent et ça arrive qu'ils reproduisent. Alors, d'abord dans une espèce d'inversion des rôles, ce qui est la répétition pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, mais aussi en même temps le bénéfice secondaire, c'est la vengeance en quelque sorte. Et c'est tout ça dont la personne a à prendre conscience.
D'autres influences encore
Alors, une influence, finalement, quand on regarde ce qui se répète beaucoup dans les familles, c'est la structure. Au-delà des événements, c'est la structure des liens, ce qu'on appelle les triangulations.
C'est-à-dire
que c'est l'organisation familiale qui se répète, avec ses règles inconscientes. Et chaque famille, on l'a dit, est organisée suivant une certaine structure avec des règles qui lui sont propres. Et dans ce type de répétition, on va retrouver les mêmes modèles de communication et de relation. Donc la personne va reproduire la façon d'être et de communiquer. Alors, ça peut être positif, mais ça peut être négatif aussi. Et quand une triangulation ne fonctionne pas ou fonctionne sur un mode pathologique, alors on va retrouver des difficultés comme les ruptures ou les conflits parents-enfants, les rivalités entre frères dans la fratrie, les répétitions d'échecs, notamment d'échecs affectifs. Et quand une personne est prise dans plusieurs triangulations familiales qui s'opposent et qui fonctionnent mal, à ce moment-là, elle risque de souffrir de troubles affectifs ou psychiques plus ou moins importants.
Alors, donc, on va se retrouver dans quelques instants. On écoute tout de suite, c'est Maurice Dulac et Marianne Mill, et c'est le titre, c'est « Dis à ton fils ».
Radio Notre-Dame.
Dis à ton fils qu'il doit rentrer, la nuit va bientôt tomber. Mais demain, il va falloir se lever. Dis à ton fils qu'il doit rentrer, je voudrais bien lui parler. Mais demain, il faudra bien qu'il apprenne Dis à ton fils qu'il doit rentrer, le mulet est déjà prêt. Et demain, nous serons dans la montagne. Par entrée, les soldats nous l'ont tué. Mais demain, il va falloir se lever. La 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 la
Voilà, dit à ton fils, c'était Maurice Dulac et Marianne Mille. Alors, peut-être on peut, avant de prendre Dany, poursuivre, finir le... répertorier encore d'autres influences, il y en a, mais simplement, rapidement, mais pour avoir cette perspective. Des influences, oui.
Alors, il y a toutes les situations inachevées. Donc, c'est les situations sur lesquelles on n'a pas pu mettre de sens. Soit parce que ça nous est arrivé dans l'enfance, soit parce que ça a été trop difficile et que ça a été un choc.
Donc on ne comprend pas et on ne met pas de sens, quoi.
Voilà, comme les deuils, les deuils brutaux, enfin les séparations assez brutales, les enfants, on va retrouver les enfants divorcés qui divorcent plus tard. Les échecs scolaires ou à des examens.
On reproduit quelque part pour essayer de comprendre finalement.
Alors, la répétition, elle est à la fois dans une tentative de résoudre, une tentative alors un peu morbide, parce que ça répète toujours la même chose.
Donc c'est l'enfermement quand même.
Donc c'est un peu un enfermement, mais en même temps, l'aspect positif, c'est que c'est aussi une tentative d'amener
à la conscience
et puis à la fin, puisque c'est une situation qui n'a pas pu s'achever parce qu'elle a été d'une façon ou d'une autre vécue comme trop violente ou traumatisante. Donc c'est une façon d'essayer d'achever ce qui n'a pas pu être compris, élaboré par la personne. Voilà, c'est une tentative d'élaboration, mais qui souvent marche pas bien tant que la personne n'a pas pris vraiment conscience de ce qui se répète et de ce qui s'est vraiment passé pour elle dans le premier événement.
Voilà. Donc, alors, de quoi parle-t-on finalement quand on parle d'histoire familiale ?
Alors, finalement, on parle souvent de processus inconscient chez l'individu, mais dans beaucoup de cas, on va retrouver un peu des problématiques types comme la fusion et la séparation. Donc, les relations fusionnelles ou de pouvoir se séparer de sa famille, de fusionner, le processus d'identification et d'individuation, c'est-à-dire de pouvoir être
soi-même.
De deuil qui n'ont pas pu se faire, de triangulation pathologique. Alors, la triangulation de base, c'est le complexe d'Oedipe, c'est deux parents, un enfant. Mais dans la famille, il peut y avoir plein de triangulations. Il peut y avoir un enfant avec un frère et sœur, avec son père et son oncle, ou son père et sa tante. Parfois, il y a des sauts de génération, c'est-à-dire que finalement, les deux pôles qui vont être prépondérants, ça peut être le père et la grand-mère et l'enfant, ou la mère et le grand-père et l'enfant. On voit comme ça qu'il peut y avoir des triangulations qui fonctionnent, qui sont pathologiques d'une certaine façon, en tout cas un peu toxiques. C'est quand on parle de triangulation, on parle de tous ces schémas-là dont la personne n'a absolument pas conscience. Elle peut le dire à voix haute sans réaliser de quoi elle parle. Et puis des situations inachevées, comme on disait. Et puis alors, finalement, dans d'autres cas, mais beaucoup plus rarement, de violences, de secrets de famille, d'abus. Mais ce qui est important, c'est de...
Qu'est-ce qui est important, alors, justement, pour dans tout cela?
Ça va être de mettre en lumière la façon dont l'individu vit le lien avec les membres de sa famille. Donc, c'est parce que quand on parle de fusion, de séparation, on parle de lien entre au moins deux personnes, souvent. Et donc, c'est de mettre en lumière et de rendre conscient à la personne la façon dont elle vit ses liens familiaux. Et quand il peut ou qu'elle peut établir une relation entre ce que la personne vit dans le présent, les liens qu'elle a avec certaines personnes de sa famille et le vécu de chacun, alors il est possible de prendre conscience d'une façon plus globale du mode de fonctionnement et des enjeux inconscients. Et finalement, l'objectif, ça va être de trouver sa juste place dans la famille. Donc, il ne s'agit pas de couper les liens. C'est important. Il ne s'agit jamais de couper les liens, alors sauf quand il y a vraiment de la violence, qui a du danger. Mais sinon, il ne s'agit pas de couper les liens avec sa famille, parce que la plupart du temps, ça ne résout pas les difficultés. Et on le voit beaucoup avec des gens qui partent faire une année en Australie et quand ils reviennent,
c'est pareil.
C'est exactement pareil.
Ils trouvent les problèmes. Donc ce qu'il faut, c'est prendre une juste distance par rapport à ces difficultés, et trouver sa juste place.
Et trouver sa juste place et d'accueillir son histoire sans chercher à l'oublier.
On va prendre tout de suite Dani parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dani, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, on vous écoute.
Oui, je suis très émue.
Oui, je comprends.
Bon, voilà, moi, je voulais vous dire que la famille, il n'y en a pas eu. Toute petite, avec ma sœur jumelle, on a été placée à la DAS. Donc, on a eu une famille paysanne. On avait à manger, à boire, à s'habiller. Mais elles nous ont rien appris. Par contre, maintenant, j'ai perdu ma sœur jumelle.
Ouais.
En 2009. C'est un chagrin immense pour moi à l'heure actuelle, puisque je me regarde dans la glace, c'est ma sœur jumelle que je vois. Je parle, c'est la voix de ma sœur jumelle. Les gestes, c'est de ma sœur jumelle. Et ça, je ne le supporte plus. Je lui parle tous les soirs. Je lui dis, pourquoi tu m'as abandonné? On aurait dû partir toutes les deux. On est nés toutes les deux. On aurait dû partir toutes les deux. Donc je crois que Dieu n'a pas fait son travail.
Ben, vous savez, enfin, nul ne sait le moment et l'heure.
Mais donc, moi, j'aurais bien voulu partir avec elle, qu'on soit ensemble.
Ouais. Ça, c'est le lien entre jumeaux est très très fort. Et du coup, il y a ce désir de partir avec.
Mais on a tout fait ensemble, toutes nos écoles. On a tout partagé, tout. C'est vraiment fusionnel, quoi. Et quand j'ai appris sa mort, évidemment, j'ai été déboussolée, j'ai déprimé. Et en plus, en 2014, j'ai perdu mon fils. Allez, et sorti d'une histoire, on rentre dans une autre. Donc,
Alors, pour moi, en tant que
maman, c'est très difficile. Et voilà, et maintenant, je fais que prier.
Et ça vous aide quand même.
Oui, beaucoup. Beaucoup. Tous les matins, tous les midis, tous les soirs.
Qu'est-ce que vous pouvez dire pour Dani, pour l'aider?
Plusieurs choses. La première chose, c'est, puisque vous priez, confiez votre sœur jumelle à Dieu.
Oui, j'ai déjà fait.
Voilà, confiez-lui dans la prière. Je pense, peut-être, faites-vous aider, parce que c'est deux deuils très importants quand même à peu de distance. Enfin, et puis, de toute façon, ce sont des deuils de toute façon difficiles, perdre un jumeau et perdre un enfant. Et c'est tout.
Mais je suis forte.
Oui, mais parfois, enfin, on peut être forte mais se faire aider, vous savez.
Oui, mais de prier Dieu, ça m'apporte beaucoup de choses.
Oui, tout à fait. Et puis, alors, par rapport à votre sœur jumelle, moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes là, c'est que peut-être vous avez encore quelque chose à faire dans votre vie.
Peut-être.
Hein? Et c'est peut-être ça la vraie question, plutôt que de dire à Dieu qu'il s'est trompé, Peut-être la bonne question, c'est de vous dire, mais moi je suis encore là sur Terre, oui. Qu'est-ce que j'ai à faire?
Voilà, et vous savez que ma sœur jumelle, quand c'était ce dernier moment, elle m'a dit, Dani, tu fais ta vie comme tu l'entends. Surtout une chose, n'oublie jamais, tu feras le sapin de Noël à ma mémoire.
Ben voilà.
Ben voilà, oui.
Je le fais tout le temps. Et je le fais avec un plaisir immense. Je prie, je mets la bougie, je mets Jésus-Christ à côté. C'est un bonheur.
Ouais. Ouais.
Et je sais qu'elle, de là-haut, elle l'entend. Elle le sait, elle le voit.
Bien sûr, ben oui. Ouais. Et donc, c'est une joie pour vous.
Une récompense.
Oui.
Ouais. Voyez, votre sœur vous envoyait vers votre vie et sans doute, vous avez encore des choses à faire.
Sûrement, je pense.
C'est justement, voilà, se demander au Seigneur qu'est-ce que vous avez à faire, comme ça il va vous éclairer.
D'accord, il n'y a pas de souci. Je prie tout le temps.
En tout cas, merci Dani. Hein,
et bon, merci beaucoup à vous et très enchantée de vous avoir rencontré.
Merci, bonsoir. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Alors, je voudrais que vous répondiez à Marie-France qui, elle voulait être appelée, mais je crois qu'on a un peu parlé de ça au tout début. Je suis écrivain et je pense que l'inconscient est très important. Est-ce que M. Parinet pense la même chose?
Oui, alors c'est vrai pour les écrivains, c'est vrai pour toutes les formes d'art,
oui.
Que ce soit l'écriture, la peinture, la sculpture. Finalement, dans l'art, le talent de l'artiste, c'est d'arriver à exprimer des choses inconscientes à travers son art, et c'est ce qui nous touche. C'est ce qui touche. Alors, il y a eu plein Freud, par exemple, a analysé des textes. Il y a eu des analyses de Hamlet au niveau psychologique. Oui. Et on retrouve dans les écrits d'une personne quelque chose de son vécu, de son histoire, de son inconscient.
On a parlé tout à l'heure, oui.
Et puis, tout ça, ça se retrouve non pas dans dans quelque chose qui poserait problème, mais dans une créativité qui met en mouvement et qui profite aux autres.
Aux autres, un don, hein, on donne aux autres. On m'a parlé au début de l'inconscient créatif, hein, c'est celui de l'intuition et de la créativité, l'art, c'est par excellence. Voilà, Marie-France. On arrive à la fin de l'émission, malheureusement. Il y avait d'autres questions encore, mais ce sera pour une prochaine fois. De rappeler lorsque Pascal Parinet sera là. On redonne le téléphone.
Oui, alors le téléphone, c'est le 06 60 15 79 60.
Oui, et le site?
Alors le site, c'est ifpsy.com.
Oui.
Et puis une nouveauté aussi, donc un blog où on peut retrouver des résumés des conférences, des enregistrements aussi, qui est psypratique.com.
Psypratique.com.
.com, voilà. Et là, vous retrouvez.
Psypratique. Toutes les conférences. Les enregistrements, etc. Un grand, grand merci, Pascal Parinet. Merci à tous nos auditeurs. Merci également à Marie-Françoise qui était au standard et Guillaume à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Demain, à 22h, écoute dans la nuit, notre invité sera le père André-Marie Bénédictin, potier et poète au service des blessés de la vie à Croix-Rault. Le thème de la soirée, exilé sur la terre en attendant l'au-delà. Très, très bonne nuit à tous. À demain. Et puis, je vous rappelle aussi que Françoise Turiez a repris Sœur Emmanuel au Petit Héberto les jeudis, vendredis, samedis et dimanche peut-être. Je ne l'ai pas sous les yeux. Enfin, voilà. Très bonne nuit à tous. À demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotredame.com.